cap, les utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlons France. Aujourd'hui, notre magazine s'intéresse à notre façade littorale et pour cette promenade iodée, avec nous Elisabeth Hank. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Hervé.
Et Anthony Vasseur. Bonjour Anthony.
Bonjour Hervé.
Depuis Bredune, au nord, à la baie d'Oti, au sud, notre région est largement ouverte sur la mer et offre un grand panel de paysages et d'activités variées. Des plages calmes de la Côte d'Opale et de la mer du Nord aux falaises du site des Caps, en passant par les grandes agglomérations boulonnaises, calaisiennes et dunkerquoises, notre littoral est un atout. Entre activités portuaires, industrielles, exploitation halieutique, autrement dit la pêche, développement commercial et tourisme, chaque point de ce territoire cherche son développement économique. Cependant, le littoral est un espace fragile, le réchauffement climatique provoque l'érosion des falaises, fragilise les dunes et la hausse du niveau de la mer, quant à lui, pourrait à terme menacer quelques équipements industriels. Pour évoquer tous les enjeux économiques, mais également les risques, nous recevons aujourd'hui Vincent Herbert, maître de conférence à l'Université Littorale Côte d'Opale, département géographie et aménagement, chercheur au laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société. Vincent Herbert a participé aux ouvrages collectifs Risques environnementaux et Actions collectives, Contribution aux recherches en géographie littorale sur la Côte d'Opale et Inégalités écologiques territoriaux littoraux. Vincent Herbert, bonjour.
Bonjour.
Vincent Herbert, je peux compléter ce bref portrait en précisant que vous habitez Vimereux, que vous êtes originaire de la région nantaise, mais surtout révéler à nos auditeurs que vous êtes un fervent promoteur de la démarche de gestion intégrée des zones côtières. Ça veut dire quoi tout ça ?
Alors, promoteur, à vrai dire, j'ai des collègues effectivement qui travaillent beaucoup sur ce concept de gestion intégrée des zones côtières. Le seul souci que je me permets de remettre en cause, c'est que c'est un très beau concept. Si on l'appliquait désormais enfin, ça serait une très bonne chose, sachant que ce concept a été développé depuis la fin des années 80.
C'est quoi les principes de ce concept ?
En gros, la gestion intégrée des zones côtières, c'est le développement durable de la côte et du littoral, où l'idée étant d'appliquer les principes d'environnement, d'économie, de social. Et l'idée avec ce concept aussi de gouvernance, c'est-à-dire une prise en charge des sociétés côtières et locales, c'est-à-dire s'entendre sur des projets, comme vous le signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets, beaucoup d'intérêts, parfois divergents, entre d'un côté la préservation des dunes et de l'autre des projets à des visées plutôt économiques. Et la question est justement comment on fait tous pour s'entendre sur ce territoire.
Il y a des conflits d'usage sur le littoral.
Il y a énormément de conflits d'usage et chacun défend son propre intérêt sans parfois regarder ce qui se passe à côté, ce qui serait intéressant justement pour avoir un littoral qui puisse être adapté à chacun en fin de compte.
Alors j'évoquais tout à l'heure les risques naturels qui menacent le littoral, auxquels on peut ajouter également des risques industriels sur terre comme au large, parce qu'il y a des bateaux qui naviguent également dans le détroit. Comment vous appréhendez cette notion de risque ? Qu'est-ce que ça représente un risque ?
Alors le risque, il faut bien voir deux choses. C'est d'une part, juste un tout petit point technique, hein, c'est d'un côté, le risque, il y a deux choses. Il y a d'une part l'aléa et d'autre part la vulnérabilité. Alors moi, en tant que géographe, ce qu'on peut définir comme étant l'aléa, si on prend par exemple le trafic maritime, c'est l'accident en mer, c'est-à-dire la pollution maritime qui peut arriver. Alors on croise les doigts bien souvent dans le détroit, mais ce qu'on voit par exemple au large des côtes bretonnes, c'est d'une part cet accident. Et ensuite, il y a la vulnérabilité, c'est-à-dire les populations côtières, c'est-à-dire le fait que cette pollution, lorsqu'elle va arriver à la côte, il va falloir qu'on puisse gérer cette pollution. Même chose pour la question de la submersion marine. Nous considérons que s'il n'y a pas de population sur les côtes, il n'y a pas de vulnérabilité, donc il n'y aurait pas de risque. Alors, chacun peut avoir sa propre définition. Peut-être que les biologistes auront une autre approche par rapport à la faune et la flore côtière. Mais en ce qui nous concerne, le risque couple systématiquement un accident, une submersion marine ou un problème d'érosion, et la présence humaine.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vulnérabilité pour qu'il y ait une prise en compte des risques ?
Dans mon acception, oui.
Et puis, il y a les risques qui sont identifiés. Est-ce qu'on peut penser que ces risques, quand il y a vulnérabilité, c'est finalement un frein, une entrave au développement de ces territoires?
Alors, la question peut se poser, en effet, quand on voit sur Dunkerque le fait qu'il y ait une économie qui est fondée depuis les années 60 sur la question industrielle, c'est-à-dire toutes ces usines qui apportent de l'emploi. Mais l'autre question, évidemment, c'est le risque que peut engendrer ces entreprises pour les populations avoisinantes.
C'est compliqué pour les promoteurs de ce territoire, les gens responsabilité, que de prendre en compte cette notion de risque et voire de l'anticiper.
Alors, je n'aimerais pas être à la place des décideurs. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc je suis universitaire. Je suis là pour poser des questions, surtout remettre en cause justement éventuellement des choix politiques. Et le décideur est souvent coincé entre un côté, si vous voulez, des projets de territoire qui sont parfois, il faut le dire, portés par des lobbies, et de l'autre, des revendications des populations locales par rapport à leur cadre de vie. On peut prendre aussi, mais les lobbies ne sont pas qu'industriels. Je pense qu'il y a aussi des lobbies liés à l'environnement. Donc on est avec ce mélange, si vous voulez, d'intérêts très divergents, en fin de compte.
Le chercheur que vous êtes est donc là pour poser des questions. Est-ce que vous êtes également là pour amener des réponses? Parce que là, on a des questions à vous poser, par contre.
Oui, bien sûr. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, d'apporter des réponses, mais via nos contrats. Et on sait très bien que les universitaires sont parfois longs dans leurs études. Ensuite, il y a le domaine des ingénieurs qui sont, je pense, plus aptes à apporter ces réponses. Mais ce que nous souhaitons, nous, les universitaires, c'est qu'on puisse prendre en compte nos questions à partir de nos travaux de recherche.
Nous allons donc nous promener sur le littoral, Vincent Herbert, et je vous propose une première halte dans notre périple côtier. Elisabeth, nous partons à Dunkerque.
Tout à fait, Hervé, pour un bilan de l'activité économique du port autonome en 2015, bilan dressé par Stéphane Raison, directeur du port autonome, et Patrice Vergriette, maire de Dunkerque, au micro de nos confrères de Radio Rencontre.
L'activité 2015 a été plutôt bonne dans un contexte où la sidérurgie était marquée par des arrêts techniques. Donc le trafic du port a été de 46,6 millions de tonnes par rapport à 47,1 l'année précédente. On a un peu baissé, mais par contre on peut constater trois records. Premier record sur le transmanche avec une hausse de 17% du trafic. Deuxième record sur les conteneurs avec 17% d'augmentation là aussi du trafic sur les conteneurs pleins. Et enfin, record absolu, on fait plus de 3 millions de tonnes sur les céréales. C'est une année qui est globalement satisfaisante. Il y a des points de vigilance, notamment sur le pétrole. L'activité pétrolière souffre beaucoup en ce moment avec un prix du baril de pétrole à 29 $.
Qu'est-ce que ça représente, l'activité pétrolière?
Alors l'activité pétrolière, c'est 4,5 millions de tonnes, donc 10% de notre trafic. C'est une activité qui est petite en tonnage, mais qui est importante en valeur.
Comment Dunkerque se situe au niveau des ports européens comme Anvers ou Ostende?
Ostende est un tout petit port, Anvers est un gros port. Sûrement l'économie la plus importante au niveau portuaire sur le range Nord-Europe. Dunkerque, c'est un cinquième de l'activité d'Anvers. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les tonnages qu'on fait, c'est surtout la valeur ajoutée et l'emploi que ça crée sur le territoire. Et Dunkerque, c'est 3,7 milliards d'euros de valeur ajoutée, 25 000 emplois directs, indirects, induits, alors que sur Anvers, vous avez quasiment 15 milliards d'euros de valeur ajoutée et plus de 200 000 emplois directs, indirects, induits qui sont créés chaque année.
Le port de Dunkerque, c'est une valeur sûre dans l'activité portuaire?
C'est le corps de son développement. Sans le port, la ville aurait quand même de très très grosses difficultés. Donc les deux sont liés. Sans les collectivités, nous ne ferons rien. Nous travaillons de concert avec Patrice Vergriette pour développer ce territoire.
Et quels sont les projets de développement de l'activité portuaire dans cette année 2016 et dans les années à venir?
Au total, on a plus de 17 projets différents, 17 projets industriels pour les années à venir, notamment dans le domaine de la logistique et du conteneur, puisque le maximum des emplois sera créé sur la logistique et le conteneur. Ça fait partie du projet stratégique du port. Il y a trois axes principaux. La logistique, donc de nouveaux entrepôts sur Dunkerque, des conteneurs qui passent par Dunkerque, l'industrie, ça c'est la deuxième partie des projets, puis on a un objectif d'aménagement de la circonscription, ça c'est un objectif général du port.
La même question a été posée à monsieur Patrice Vergriette, maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque.
Alors pour l'activité portuaire, elle est portée par l'État, par le grand port maritime et notamment par Stéphane Raison, son directeur. Et aujourd'hui, il y a des contacts intéressants qui sont pris avec un certain nombre d'investisseurs qui veulent venir à Dunkerque. Nous, on accompagne beaucoup Stéphane Raison dans le recrutement, l'orientation des chargeurs du Nord-Pas-de-Calais-Picardie vers Dunkerque. En clair, avec le président de région, Xavier Bertrand, on a décidé de faire la tournée de tous ceux qui passent aujourd'hui par Anvers et qui demain devraient pouvoir passer par Dunkerque. Donc on va essayer de convaincre un certain nombre de grandes entreprises de passer davantage par le port de Dunkerque.
C'était Patrice Vergritte, maire de Dunkerque, et Stéphane Raison, directeur du port de Dunkerque, au micro de Radio Rencontre. Vincent Herbert, à qui appartient ce port de Dunkerque? Qui y fait quoi? Et qu'ont à voir le maire de Dunkerque et le directeur du port autonome avec les résultats de l'activité du port en 2015?
Alors le port, d'ailleurs c'est le grand port maritime avec la réforme d'il y a une dizaine d'années à peu près. Donc c'est le grand port maritime qui est un port d'État. On a 7 en France, donc c'est différent des ports de Boulogne et Calais qui eux sont propriétés de la région. Donc évidemment en termes de gestion, on a l'intervention de l'État. Ensuite, ce que j'entends d'intéressant et ce que je savais, c'est-à-dire que le port de Dunkerque travaille de concert avec notamment la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Dunkerque, puisque l'emprise du port, il ne faut pas l'oublier, hein, elle côtoie et elle fait partie quasiment, si vous voulez, du paysage dunkerquois. Autre chose, c'est-à-dire qu'une partie des bâtiments suite, justement, on l'entend dans le reportage, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une diversification de l'activité du port de Dunkerque, c'est-à-dire qu'on voit que l'activité industrielle s'est décalée vers la partie ouest, laissant des espaces libres, notamment dans les années 70-80, côté ville, si vous voulez. Et à partir de là, vous avez eu, notamment sous l'influence de Michel Delbar, un projet appelé Neptune, notamment, de rénovation urbaine, ce qui se fait dans la plupart des villes. Vous l'avez à Barcelone, vous l'avez à Marseille, même dans toutes les villes portuaires, hein, ce sont les principes de relations ville-port, où là, en l'occurrence, une partie des bâtiments, désormais, hein, sont attribués à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et on voit, si vous voulez, que ce lien en matière d'aménagement du territoire et urbain est fondamental entre ces niveaux. Et c'est vrai que Dunkerque est un bon exemple par rapport à ce que l'on peut appeler parfois le millefeuille administratif et territorial. On voit quand même la volonté locale, si vous voulez, de travailler de concert. Et Dunkerque a souvent une réputation de ville industrielle, industrieuse. Et on voit une véritable dynamique. Alors si je peux continuer un petit peu par rapport... on a parlé beaucoup d'Anvers. On oublie quand même... Est-ce que c'est une volonté dans le discours de ne pas préciser qu'on a quand même Zeebruges qui est un port fondamental en matière de conteneurisation? On ne parle pas du tout de Rotterdam, même si ça paraît beaucoup plus loin. On ne parle pas du port d'Hambourg. Je pense que la concurrence est quand même très rude sur cette fameuse rangée du Nord, dont il faut avoir conscience.
Vous parliez de ports industrieux. En même temps, le littoral dunkerquois héberge 15 usines Seveso, donc des usines qui présentent des risques d'explosion, des risques chimiques et nucléaires. Le même littoral héberge également une centrale nucléaire à Gravelines et enfin un terminal métallier dont la construction vient d'être achevée en 2015. Ce littoral dunkerquois est-il donc particulièrement propice à accueillir ce type d'équipement à haut risque?
Alors, est-ce qu'on a décidé de concentrer justement tous les risques sur le Dunkerquois? Ça, là aussi, c'est une volonté d'État. Hein. C'est déjà, à la base, quand on a créé ces trois grands ports industriels en France, entre Marseille, Le Havre et Dunkerque, il est clair qu'on sacrifiait quelque part les espaces à une fonction industrielle. Mais si on réfléchit à d'autres échelles, on n'a pas véritablement le choix, si vous voulez, dans notre fonctionnement de la société. C'est qu'à un moment, il faut bien des espaces pour créer de l'énergie, pour acheminer. Alors, on peut parler du terminal méthanier qui a fait beaucoup de bruit, sans exploser pour autant, hein, mais qui a fait beaucoup de bruit, si vous voulez, sur le Dunkerquois. On est toujours dans cette idée qu'il nous faut de toute façon l'énergie et qu'à un moment, il faut bien pouvoir acheminer cette énergie. Et la question est toujours, c'est que c'est toujours chez les autres. C'est-à-dire que chez nous, on ne veut absolument pas, je cautionne absolument pas, hein, si vous voulez, effectivement, ce phénomène d'industrialisation. On pourra revenir sur la question de la centrale nucléaire de Gravelines qui est quand même à proximité d'usines Seveso. Et on peut se demander aussi parfois le choix politique de maintenir... on sait qu'il y a des questions financières, mais... Il faut, je pense, voir à différentes échelles et ne pas voir que dans sa cour, si vous voulez.
Vous parliez de sacrifices. Malgré la présence de ces installations dangereuses, la densité de population dans l'agglomération dunkerquoise reste l'une des plus élevées de la région. Les habitants ont conscience de ces risques?
Je pense que oui, il y a eu un très bon reportage fait il y a une dizaine d'années par deux cinéastes qui s'appelle Pollution. Et dans ce reportage, justement, on voyait les manifestations des Dunkerquois qui avaient bien conscience aussi de la pollution tout simplement aérienne. Avant de parler d'explosion, si vous voulez, sur ces sites Seveso, vous avez la question justement aussi de la qualité de l'air aussi qui se joue.
Et un terminal méthanier, vous avez parlé des énergies juste avant, un terminal méthanier à Dunkerque à l'heure de la révolution écologique et sociale, vous en pensez quoi?
Alors, c'est vrai qu'on parle, en plus, c'est là où c'est assez, assez drôle pour nous, c'est-à-dire que, enfin drôle, je m'entends, c'est-à-dire que d'un côté, on vous parle de troisième révolution industrielle à partir des énergies renouvelables, et dans le même temps, on continue. Mais je pense que parfois, nous sommes dépassés, si vous voulez, par rapport aux impératifs immédiats en matière d'apport énergétique, en fin de compte.
Et l'éolien offshore, donc en mer, et l'hydrolien, est-ce que c'est des énergies qu'on pourrait développer dans la région ? Et sur Dunkerque.
Alors, si on suit l'actualité, on est en plein dedans actuellement avec des projets, notamment ici au large de Berck-sur-Mer, et on voit qu'il y a de nombreux débats initiés par des élus locaux. Je pense que là aussi, c'est un choix, c'est-à-dire que d'un côté, on ne voit pas qu'il y a quand même une centrale nucléaire qui... Paraît-il qu'elle n'a pas encore atteint sa durée de vie. Moi, j'émets de sérieux doutes à ce niveau-là. Et de l'autre, on ne veut pas développer les énergies renouvelables parce que, sous prétexte qu'on voit des éoliennes à 20 ou 30 km. Là encore, on est, je pense, dans un système de pensée qui est très local. Concernant les énergies renouvelables en mer, notamment les éoliennes, qui peuvent impacter le paysage, je rappelle que la question du paysage est déjà une question subjective, c'est-à-dire que personnellement, moi, celle que je vois, mais c'est personnel là pour le coup, hein, y a rien d'objectif, mais les éoliennes me font penser à des infrastructures qui ne sont pas dangereuses pour la santé humaine. Et en mer, je pense que ceux qui ont vraiment... autorité pour parler de la mise en place ou non, ce sont les pêcheurs. Et les pêcheurs sont ouverts au dialogue. Le tout est de respecter leur territoire et de tenir compte de leurs pratiques en mer, sachant que je pense que ce sont ceux qui sont le plus à même à répondre aux espaces qu'on peut ouvrir aux éoliennes.
Donc là, on parle de conflit en termes d'aménagement pour développer les énergies nouvelles et des intérêts des pêcheurs. Les habitants de la côte, qu'en pensent-ils ?
Alors, ils se réintéressent. Il y a énormément... C'est toujours pareil. Vous l'intervenez ?
Non, je vous en prie.
Les habitants, il serait peut-être bien d'avoir davantage d'avis, mais ils sont souvent représentés soit par les associations, soit par... et là aussi, on retrouve des associations dont j'aimerais vraiment connaître finalement l'objectif final, qui n'est pas toujours clair aussi.
Si on revient à cette notion de risque qu'on évoquait tout à l'heure, en début d'émission, on nous parle de réchauffement climatique, de la montée du niveau de la mer, Gravelines, c'est un site réellement dangereux. On sait qu'il y a eu un accident au cours d'une tempête à Blaye, en Gironde. On était à deux doigts, véritablement, de connaître l'immersion des systèmes de refroidissement, ce qui s'est exactement produit à Fukushima. C'est quoi ? C'est de la science-fiction que de penser ça ? C'est de la psychose inutile ou... faut vraiment considérer ce risque.
Pour moi, il faut le considérer, puisque le risque zéro n'existe pas. Il y a une question aussi qu'on oublie, c'est la mémoire. On a quand même, on le voit dans nos études, justement par rapport à la perception et la représentation du risque, c'est-à-dire qu'on oublie que ce soit dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, vous oubliez qu'il y a eu un accident majeur, et puis c'est aussi dans l'espace. C'est-à-dire que quand c'est loin de chez nous, là encore, on a moins conscience du phénomène, du risque qui peut nous impacter. La question de la centrale de Gravelines, je vous rappelle qu'elle est quand même à moins 5 mètres du niveau de la mer. Donc soit on consolide les digues, soit on arrête de jouer à l'apprenti sorcier, d'autant plus que, on se demande même comment on va pouvoir l'arrêter, cette centrale. Il y a aussi ces questions-là. Et là encore, ce qui me dérange, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, ce discours en faveur de la troisième révolution industrielle et les énergies renouvelables. Et sur le terrain, on vous maintient des centrales nucléaires et on refuse des systèmes d'éoliennes en mer sous prétexte que le paysage va être impacté.
Quand on équipe le territoire de grosses infrastructures telles que le terminal méthanier, qui est quand même quelque chose de très gros, est-ce qu'on peut modifier le cours des courants du littoral ? Est-ce que ça a une influence sur le courant côtier ?
Alors, avant de parler, parce que là on prend le terminal méthanier, si vous voulez, une simple digue va vous modifier les courants. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si la digue de Carnot de Boulogne les modifie, mais un simple port de plaisance ouvert en mer va vous modifier les courants. Donc c'est pas tant, si vous voulez, le fait que ce soit un terminal méthanier ou une autre infrastructure. Les fronts de mer, les digues, la digue de Vimereux, d'Ambleteuse, de Huissant, elles sont parallèles à la côte, mais elles ont fortement impacté sur la dynamique côtière. Le seul souci, bon, ça c'est un principe de base qu'on connaît depuis très très longtemps, et qui n'a pas été respecté depuis Victor Hugo, c'est simplement le fait qu'on ait une rupture entre la dune et la plage. Tout simplement, hein, l'idée étant que la dune est là pour apporter du sable sur la plage en cas de tempête, par exemple. Bon, je ne rentre pas dans des détails géomorphologiques, mais ce sont des choses qu'on connaît par cœur et qui ne sont malheureusement pas tenues ou prises en compte par les publics. Par toutes les politiques publiques. Je me reprends parce qu'heureusement qu'il y a quand même des gens qui travaillent en ce sens.
Le littoral, aujourd'hui en question dans Parlons Franc avec notre invité. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Vincent Herbert. On revient au littoral dans un instant, mais tout de suite on écoute Yvan Marc avec La Mer.
Elle s'est déjà fait arracher dedans. Elle avait un boulot, elle bossait au McDo, mais elle s'est fait virer, elle est bien emmerdée. On lui avait fait croire que ça allait changer, qu'avec un nouveau gouvernement, ça irait mieux qu'avant. Mais elle y croyait pas vraiment. Pour qui voter, c'était pas évident. Alors du coup, elle a voté blanc parce qu'elle aime bien le fromage blanc. Elle aime bien aussi Michel Blanc. Elle veut être comme tout le monde, avoir un boulot pépère pour se payer des vacances au bord de la mer. La mer, où c'est que c'est clos, elle est salée. Où c'est qu'on peut bronzer, manger des glaces, des crustacés. Mais elle est un peu dans la galère. Elle se demande ce qu'elle va faire. Elle a fait comme lui a dit son mec Albert. S'est inscrite dans des boîtes intérimaires. Faut bien gagner de l'argent pour payer l'appartement.
Yvan Marc, La Mer.
Parlons Franf.
Le magazine mensuel de la Franf.
La Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Aujourd'hui, notre invité, Vincent Herbert, maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et nous nous questionnons sur la façade maritime régionale. Et à présent, Anthony, tu nous invites chez toi, à Boulogne-sur-Mer.
Absolument, Hervé. Boulogne-sur-Mer, c'est 2000 ans d'histoire portuaire, une évolution dont va nous parler Valérie Rioux, chargée de promotion portuaire à la communauté d'agglomération du Boulonnais, que vous connaissez, Vincent Herbert. Boulogne-sur-Mer, c'est aussi, et peut-être même surtout, on aura l'occasion d'en parler, un port de pêche qui subit de plein fouet, selon Christophe Lomel, marin pêcheur, les réglementations européennes.
C'était effectivement rempli de monde, d'activités et c'était en plein essor à l'époque, donc effectivement il y a 35-40 ans. Je pense que l'une des mutations de ce port a été le lancement des normes européennes qui ont fait qu'il a fallu que tout se mette un peu à la page avec notamment des normes drastiques pour certains. Ben, des normes européennes d'hygiène, de qualité, de respect de la chaîne du froid, parce qu'on a aujourd'hui des magasins de marée qui étaient à l'époque extrêmement rudimentaires et qui aujourd'hui ont besoin de respecter un certain nombre de normes au niveau de l'hygiène, qui font que on est passé très rapidement d'un grand nombre de mareyeurs à un nombre moins conséquent, parce que les normes engageaient un niveau de financement tel que beaucoup d'entreprises aussi ont périclité. Et puis après il y a eu évidemment toutes les bases de la flottille qui ont été revues avec des bateaux qu'on a cassés, pas forcément remplacés, pour des raisons diverses et variées. Donc le port a été en mutation, je dirais, il y a maintenant 25 ans et il continue encore à se muter, même si aujourd'hui, les normes européennes, on est le plus bon élève de l'Europe, puisque à Boulogne-sur-Mer, on respecte absolument toutes les normes, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres ports.
Tout ce qui est la filière de la pêche qui concerne Capicure et la flottille de pêche, aujourd'hui, c'est le dernier poumon économique qu'il y a à Boulogne. Je pense que l'économie locale a besoin de toute cette filière, justement, pour créer de l'emploi, pérenniser les emplois qui sont encore en place, qui sont, je pense, déjà très importants. Après, bon, bah, au niveau personnel, c'est sûr que nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau de l'Europe, on est enfermé dans un carcan de réglementation qui... Au niveau de la réglementation, les entreprises, comme les entreprises de pêche, on est enfermé dans des carcans de réglementation qui sont prises par des gens qui ne connaissent absolument rien dans le métier, qui prennent des décisions qui sont carrément inadaptées à la profession, hein, comme dans le mariage, comme dans la transformation, surtout dans la pêche. Et aujourd'hui, bon, bah, ça un peu, et aussi, il ne faut pas se voiler la face, hein, on est quand même dans le gros de la crise, donc économiquement, forcément, ça se ressent sur tous les secteurs. Hein.
On vous a vu acquiescer, Vincent Herbert. Selon vous, quel avenir pour la pêche à Boulogne, aussi bien en termes de pêche en pleine mer, ce qu'on appelle la pêche hautière, qu'en pêche côtière ?
Alors juste une réaction et pourquoi j'ai souri, parce que je suis entièrement d'accord avec le monsieur qui vient d'intervenir. Il y a une vraie fracture, c'est-à-dire que d'un côté, il faut pas. Je pense que ce qui est intéressant au niveau européen et comme au niveau international, on parlait tout à l'heure du développement durable, hein, qui avait été annoncé ou initié lors de la conférence du Sommet de la Terre. Donc il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on initie par exemple ces concepts de développement durable. Les normes d'hygiène sont intéressantes parce que je pense, alors je ne suis pas médecin, mais il faudrait faire des études d'épidémiologie. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Par contre, où je suis entièrement d'accord, c'est que ce sont des gens qui prennent des décisions qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas la vie, par exemple à Cap-Écure. Bon, pour habiter, je suis un fervent. Pourtant, vous voyez, je suis universitaire, mais je crois que la première des qualités, enfin, en tant que géographe, on est un peu dans ce mouvement-là. La première des choses, c'est au moins de fréquenter aussi les milieux qu'on étudie et sur lesquels, notamment, on veut légiférer. Et la question à Cap-Écure, pour connaître des amis qui travaillent là-bas et qui ont fermé, justement, par exemple, leur société ou leurs petites entreprises artisanales. Il y a cette question, quand on vous dit, voilà, pour la norme, il vous faut un camion réfrigéré pour faire 20 mètres entre le port et votre entreprise, il y a un décalage entre les moyens mis en œuvre pour respecter ces réglementations. Et ça pose un gros souci. Alors, pour vous répondre concernant l'avenir de la pêche, il y a une chose qui est claire. Enfin, je ne suis pas dans les statistiques, mais comme le disait la première intervenante, vous avez un port qui avait plus d'une centaine, je n'ai pas le chiffre en tête, de bateaux hauturiers. Ces bateaux qui partent en mer du Nord, en mer d'Écosse, en mer d'Irlande, etc., qui partent pour des campagnes de 6 semaines. Aujourd'hui, on doit en avoir 2. Donc effectivement, si vous prenez la pêche hauturière, c'est très délicat. Alors ensuite, concernant la pêche côtière, c'est-à-dire la pêche à la journée ou la pêche à la semaine, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que les bassins qui se sont vidés, alors d'une part, vous avez la plaisance, c'est encore une autre thématique, qui utilise certains bassins, et d'autres bassins ont été récupérés par la pêche étaploise, c'est-à-dire ces bateaux qui partent à 4-5 jours, parce que, et là c'est là où on voit justement l'intérêt de voir un territoire dans son ensemble, c'est que les bateaux étapois ne pouvaient plus rentrer dans l'estuaire de la Canche, puisque elle sans sable. Donc vous voyez que la question, elle n'est pas que focalisée sur un site, si je puis me permettre.
Est-ce que c'est si compliqué de penser à la reconversion du port de Boulogne ? Parce que vous le dites, hein, l'activité portuaire diminue, il y a de moins en moins de bateaux qui partent en haute mer pêcher. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'imaginer la reconversion du port et qui doit s'en charger ?
Alors, le port, alors toujours pareil aussi sur le site, comme je vous le disais, le port est propriété du conseil régional, donc il y a déjà effectivement la région. Ensuite, certains terrains appartiennent probablement, je n'ai pas le foncier en tête, hein, mais à la communauté d'agglomération du Boulonnais. Ensuite, quand vous passez en mer, et bien pour le coup c'est l'État, vous avez une multitude d'intervenants. Ça c'est une chose, je constate aussi autre chose, sachant que la plupart du poisson est désormais importé par camion sur le port, la question que j'ai, je me dis, mais finalement, on a un port et des camions, essentiellement. Et on commence à voir aussi, mais là, je n'ai pas véritablement travaillé là-dessus, mais là aussi, en tant qu'observateur lambda, on constate qu'on a une délocalisation de certaines entreprises sur des zones d'activité qui sont proches de l'autoroute, type Landacre, pour ceux qui connaissent, et puis Avimille, par exemple. Et ça, à terme, il faudra aussi régler cette question d'une délocalisation peut-être accentuée, je ne sais pas.
On parlait de reconversion. Quel est-ce qu'on centre aujourd'hui sur le transport des personnes et augmente son activité de fret de marchandises? Est-ce que les deux ports, Calais et Boulogne, ne devraient pas penser leur avenir en commun? Surtout qu'en plus de ça, les CCI de Calais et Boulogne ont fusionné. Vous parliez de millefeuille administratif. Est-ce que le problème n'est pas aussi justement là?
Alors, il y a d'une part ça. Ensuite, moi, je ne maîtrise pas, si vous voulez, les appointances politiques. Mais ce que je constate, je suis là depuis 99. Et nous étions inondés d'une magnifique brochure quand j'ai découvert la région. Et je l'ai encore à la maison parce que celle-ci, c'est quasiment un collector. Où on vous annonçait l'Europort. Alors, pour moi, l'Europort, quand je suis arrivé ici, c'était Rotterdam. Et non, j'apprends que l'Europort, c'est la fusion ou du moins l'entente entre Cordial, si je puis dire, entre Boulogne-Calais et Dunkerque. Et si l'on prenait les statistiques des chiffres des chambres de commerce et d'industrie à l'époque de Calais et de Boulogne, en gros, vous aviez d'un côté celle qui était la plus riche de France, je caricature à peine, et l'autre qui était l'une des plus pauvres. Et on sentait qu'on était malgré tout, donc un discours d'entente cordiale entre les ports et sur le terrain, une extrême concurrence. Et on le voit actuellement, on a deux ports qui sont propriétaires, dont la propriété est la région, avec un port qui développe son activité de transmanche et un port, et on le sait très bien malheureusement à Boulogne-sur-Mer, qui est complètement vide. Attention, ce n'est pas dû que aux acteurs publics. Ce qu'on peut remettre en cause aussi, hein, c'est-à-dire les opérateurs privés qui ont bénéficié de certaines subventions pour occuper le port de Boulogne et qui sont partis très rapidement ensuite.
De ce fait, est-ce que l'une des reconversions, l'une des solutions envisageables, ce ne serait pas de transformer le port de Boulogne, l'activité du port de Boulogne en activité de plaisance? Par exemple.
Alors ça, c'est un des enjeux. Alors moi, je suis assez partagé sur la plaisance. Hein.
De laisser la pêche côtière à Étaples et d'installer une plaisance à Boulogne.
Bah, la pêche côtière, comme je vous le disais, le problème, c'est que les bateaux ne peuvent plus rentrer dans la Canche. Donc on est plutôt sur un port de plaisance. Alors on maintient les étals. Après, il y a toutes ces questions de patrimoine, etc. Donc le poisson, si vous voulez, vous pouvez aller acheter votre poisson sur le port d'Étaples. Hein, mais il vient essentiellement de Boulogne-sur-Mer. La plaisance, je suis assez partagé. On a eu des travaux hein, sur cette plaisance. Le souci, c'est pour qui et pourquoi. C'est-à-dire, qui va sortir son bateau de plaisance? Est-ce qu'il faut encore occuper les bassins avec la plaisance? Parce que l'idée de la plaisance, c'est comment vous faites vivre la ville avec. Est-ce que le plaisancier, lui, va faire développer une économie non seulement portuaire, mais surtout urbaine, en fin de compte.
Touristique.
Si vous le souhaitez, ouais. Enfin, le plaisancier, le profil est assez varié aussi, hein, faites attention.
En tout cas, on parlera du tourisme dans un instant, dans la suite de cette émission. Je vous rappelle que l'on parle de la gestion du littoral. Et ce sont les mauvaises langues qui nous emmènent en promenade dans le sable. Voici la Côte d'Opale.
Un peu de sable, d'eau de recel, sous mes semelles c'est caché, bien à l'abri sous nos souliers. C'est qu'il fuit le vent et le sel, il se glisse sous nos prunelles, dans les poches de nos cirés, la poussière de roche trouvée, en nous de quoi se faire la belle. On la prend dans notre escarcelle, elle se fera vite oublier, on aimera la retrouver. De retour dans nos citadelles. Si un jour on en a marre des voyages, si un jour on cherche un rivage, un peu comme toi, un peu sauvage, si un jour il faut qu'on s'installe, je nous vois bien vieux amants, vieux potes, vieux sages, sur la côte d'Opale. Car de toutes les routes, celles dont on ne s'est jamais lassé, c'est là qui on reste fidèle, c'est entre Boulogne et Calais. Instant qui ne déçoit jamais, devant 800 qui s'écartèlent, pris entre ces deux sentinelles, le cap gris et le cap plané. C'est qu'ils n'ont rien de caravelle, ces lourds ferries franco-anglais, on sait pourtant les faire voler là-bas au-dessus du tunnel. Si un jour on en a marre des voyages, si un jour on cherche un rivage, un peu comme toi, un peu sauvage, si un jour il faut qu'on s'installe, je nous vois bien vieux amants, vieux potes, vieux sages, sur la côte d'Opale.
Oh non.
Parlons Franf.
C'était l'écho.
La radio autrement.
Le littoral en question dans notre magazine, notre invité Vincent Herbert, maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et nous allons à présent nous intéresser au tourisme et je vous propose de remonter le temps. Extrait des archives de Radio Scarpe Sensé, voici l'interview de Dominique Dupilet. Il est alors président du département du Pas-de-Calais et c'est à l'occasion du lancement des travaux pour la réhabilitation du site des Capes. Nous sommes en 2007.
Je voudrais expliquer à nouveau ici que nous ne spolions aucun propriétaire, que nous n'avons pas l'intention d'exclure des agriculteurs, que nous n'avons pas l'intention d'interdire la chasse, mais que nous avons simplement l'intention de faire une opération cohérente. Par conséquent, il y a un certain nombre d'acquisitions foncières qu'il faut faire. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous commençons sur le territoire de Tardingan et que nous allons poursuivre sur le territoire du Cap Grinet, c'est que nous avons trouvé sur ces lieux des gens compréhensibles, attachés à l'importance de l'opération et qui par conséquent n'ont pas cherché simplement à se mettre sous le feu des projecteurs en étant contre, mais en disant qu'au contraire, ils sont pour, avec les remarques que vous avez pu entendre de M. le maire de Tardingan, ce qui est normal dans le cadre d'un dialogue. Nous travaillons aussi sur des aménagements. Je dois souligner qu'aujourd'hui, cette opération marque pour la première fois une coopération entre le conservateur du littoral et le département du Pas-de-Calais, puisque jusque maintenant, nous n'aménageons pas les terrains qui étaient acquis par le conservateur du littoral. Et ici, aujourd'hui, c'est une première. C'est aussi une première en ce qui concerne la convention avec la commune de Tardingan, puisque nous conventionnons avec la commune de Tardingan. Le département va faire des travaux sur des terrains dont il n'est pas propriétaire. Et donc c'est cette convention qui nous permet aujourd'hui de lancer cette opération. Et donc cette première phase de l'opération que nous venons de vous montrer montre simplement comment nous allons améliorer, organiser la fréquentation touristique, le développement économique local, la préservation de la qualité paysagère et la diversité.
Cette volonté du département devait également prendre en compte l'ensemble des activités côtières. Je vous propose d'écouter le même jour, toujours en 2007, Hervé Power. Il est alors vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais et président d'EDN 62 en charge des espaces naturels sensibles.
Il faut être honnête, je crois que la Côte d'Opale a quand même pris une option pour le tourisme nature, et qu'on a assez de places pour pouvoir mettre des élevages ailleurs que dans les endroits fréquentés par les touristes. Je crois qu'il y a certains endroits qui doivent être réservés au tourisme et d'autres qui peuvent être utilisés pour la conchiculture. Bon, je vous dis ça simplement parce que par exemple, au sud de Boulogne, on connaît qu'il y a des grandes plages et des grandes plages pour les touristes. Et un peu plus loin, ça ne gêne personne, il y a de l'élevage pour les moules. Donc je crois qu'il faudrait, il faut essayer d'avoir une discussion avec tous les responsables, aussi bien du tourisme, les responsables du développement économique, les responsables de ce type de culture, d'élevage, pour dire, allez, il y a des endroits sanctuarisés où on ne fait pas du développement économique, mais on fait du tourisme, parce que la notion de paysage s'impose maintenant. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que quand on a des beaux paysages comme le Blanc-Nez, comme le Grinet, comme la baie d'Huissant, il y a des endroits où on ne doit pas y toucher. Bon. Et on a assez d'espace, on a assez de plages pour pouvoir les mettre ailleurs.
C'était donc en 2007, à l'occasion du lancement des travaux d'aménagement du site des Capes par le département du Pas-de-Calais. Vincent Herbert, près de 10 ans après, est-ce qu'on peut parler d'une réussite ?
Alors personnellement, je pense que l'opération Grand Site est remarquable. Alors j'entends remarquable justement dans l'idée qu'on se fait du développement durable par exemple, ou cette fameuse GIZC. Elle est remarquable surtout parce que finalement, moi je critique souvent le fait qu'il y a toujours une fracture entre le discours politique et le développement du territoire et les actes. Là pour le coup, on sent bien justement qu'on a vraiment, si l'opération Grand Site a fonctionné, c'était le bébé de Dominique Dupilet, hein. Il travaillait dessus depuis une trentaine, une quarantaine d'années, l'idée étant de mettre en valeur ce site. C'est pour le coup, on a une volonté politique locale qui va utiliser des outils justement nationaux, c'est-à-dire ce dispositif du réseau des grands sites de France, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, que dans les financements, vous avez l'Europe, pour le coup. On y revient, vous voyez. C'est-à-dire que là, on a vraiment tous les échelons qui se coordonne et qui donne le résultat du grand site de France.
C'est-à-dire qu'il fallait à l'époque un visionnaire tel que l'a été peut-être Dominique Dupilet. On ne pourrait pas avoir cette vision. Tout à l'heure, on parlait de Boulogne à travers les énergies renouvelables. Ce n'est pas là où il faudrait être visionnaire aujourd'hui ?
Je pense que oui, tout à l'heure, on en parlait en aparté justement sur d'autres méthodes. C'est vrai que les éoliennes, si elles gênent d'un point de vue paysager, on peut voir d'autres systèmes qui se développent, dont je ne sais plus quelle est cette entreprise, mais ce système de...
Il-énergie.
Merci beaucoup, Anthony. Et ce système a l'air assez prometteur et de ne pas déranger l'aspect paysager. Donc, il y a énormément d'options. Le tout, c'est de balayer et de travailler en concertation, comme le présentait le président de l'époque, M. Dupillet, avec les agriculteurs. Juste une chose, vous me dites aujourd'hui, j'ai eu Olivier Provin, là, qui est chargé de mission au parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, pour le grand site de France. Il me précisait que les agriculteurs aujourd'hui vivent très bien justement du tourisme et qu'ils ont tendance à être davantage dans l'activité touristique que dans l'activité agricole. C'est complémentaire.
La location de chambres d'hôtes, voilà. Entre autres. Alors, vous évoquez différents acteurs. Ils ont été nombreux, départements, communes, intercommunalités, conservatoires du littoral, parc naturel régional des Caps et Marais. Il y a eu une entente, voire une complicité. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il faut créer, générer pour que ça réussisse ?
Bah, à partir du moment où tout le monde comprend que son intérêt personnel va passer par l'intérêt général d'une collectivité ou d'un territoire, d'un territoire commun qu'on doit partager, les choses se font. Et je pense que le Grand Site de France est un bel exemple à ce niveau-là.
On va parler des stations balnéaires qui finalement vivent 4 mois dans l'année sur 12, qui ont besoin d'un niveau d'équipement pour pouvoir accueillir les touristes. Est-ce que c'est finalement rentable pour elles ?
C'est rentable. Économiquement, c'est probablement rentable l'été. La question, moi, en tant que géographe, je suis plutôt sur la dimension territoriale, c'est-à-dire les parkings vides l'hiver et surremplis l'été, les embouteillages, les tensions qui se créent d'un point de vue risque urbain, par exemple des violences d'été, des débordements, etc. La question de la gestion aussi des macro-déchets, des poubelles, de la qualité de l'eau, il y a énormément de choses. Là aussi, on parle de tourisme. Je pense, pour avoir discuté avec quand j'arrive à aller rencontrer les professionnels du tourisme du comité départemental, régional ou de la CAB, l'une des questions qui se pose, je le vois au niveau départemental, c'est aussi justement le vieillissement des populations qui fréquentent ces stations. C'est-à-dire moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on va être dans le tourisme dans 40 ans par rapport à ces stations ? Est-ce que les gens qui ont été dans des campings, qui ont ensuite investi, qui ont fait construire une résidence secondaire, et c'est la question que vous me posez, qu'en sera-t-il dans 30 ans ? Est-ce que ces gens vont venir... Alors, imaginons que ces personnes seniors, qui seront seniors, viennent investir de façon résidentielle à l'année ces logements. La question est comment on organise les nouvelles fonctions de ces stations qui ont été construites pour du tourisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comment est-ce qu'on va pas vers une autre évolution ? Plutôt que de parler que du tourisme, est-ce qu'on aura encore une définition ou quelle sera la définition du tourisme dans 30 ans dans ces stations ?
Alors, ce qui est curieux, c'est qu'elles pourraient faire le choix de venir y vivre, même si de temps en temps, il y a quand même des accidents remarquable. On va parler de 800, la digue de 800 qui éclate sous un coup de mer en 2007,
oui, c'est bien ça. Il y avait déjà eu un coup en 2001, je crois, ou 2000, c'est-à-dire qu'elle a explosé deux fois en 7 ans, effondrée.
Alors qu'on répare à chaque fois, c'est un cycle sans fin, on va continuer à la réparer, il faut continuer à la réparer cette digue, ou alors il faut dire, on faut trouver une alternative, on ne fait plus de digue, on met autre chose et on pense à gérer le foncier autrement dit.
De nouveau, on est encore dans un choix de société, c'est-à-dire que justement cette digue, alors je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais les questions qu'il faut se poser, c'est combien on investit pour refaire cette digue et pour qui ? Pour combien de personnes qui vivent à l'année sur le front de mer ? Là, c'était un article de La Voix du Nord, hein, suite à l'explosion ou à l'effondrement de la digue en 2007. On avait évacué 7 personnes du front de mer. Donc la question est de savoir, par rapport aux investissements sur ce front de mer, qu'est-ce qu'on fait ? Et la deuxième chose, je rappelle qu'il y avait eu un travail remarquable justement des universitaires, des ingénieurs. Enfin, il y a eu beaucoup une concertation sur un plan qui s'appelle le plage. On préconisait, ça devait être en 2000, le rechargement de plage. Et le souci de ce rechargement de plage, qui est aujourd'hui, si on veut maintenir un front de mer, quasiment la seule solution pérenne, le souci, c'est qu'on va vous remettre du sable, c'est que ça coûte cher, c'est que le sable, par définition, repart, parce que n'oublions pas que le littoral est mobile, et qu'ensuite, ce n'est pas politiquement vendable. Donc, on est confronté à un vrai problème, si vous voulez, de choix de société. Est-ce qu'on accepte le recul, mais pour combien ? Et comme vous le dites, on est face à une très forte ambiguïté sur le littoral, c'est qu'on est sur des espaces qui peuvent être risqués par les submersions marines et l'érosion côtière, Et puis de l'autre, ce sont les espaces qui coûtent le plus cher. Si vous achetez une maison front de mer, c'est, vous avez vu sur mer, ce sont les espaces qui, d'un point de vue foncier, sont les plus
C'est là où c'est cher. Le plus dangereux et c'est là où c'est le plus cher.
Voilà, c'est un gros paradoxe qu'on a sur le trait de côte. Ouais.
C'est un paradoxe qu'on n'a pas à Dunkerque, même si on est à côté d'installations dangereuses.
Voilà, tout à fait.
Là, on est sur des installations dangereuses et comme c'est dangereux, ça coûte moins cher.
Exactement. Alors, c'est pas comme c'est dangereux. Ça... Oui, tout à fait. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Oui.
C'est un véritable paradoxe. Hein.
Complètement. Et c'est toute l'ambiguïté du front de mer, c'est du littoral, d'où son intérêt justement et sa complexité aussi.
Vous évoquez quelques phénomènes naturels en disant le front de mer, le trait bouge, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, il y a de l'ensablement.
De tout temps, si je puis dire.
Ouais, ce sont des phénomènes naturels ou ce sont des phénomènes naturels accélérés aujourd'hui?
Alors après, moi je veux pas rentrer dans les débats. Est-ce que par rapport à la révolution industrielle, est-ce que l'homme, enfin, quelle est notre part dans ce réchauffement climatique? Mais n'oublions pas que le réchauffement climatique fait partie, si vous voulez, des cycles terrestres qu'on connaît depuis 4 milliards d'années. Et le réchauffement, enfin, l'élévation du niveau marin qui est due au réchauffement climatique, ça fait 18 000 ans que le niveau marin monte. Alors après, ne me demandez pas quels sont les rythmes actuels, puisqu'on n'a pas assez de recul. Hein. En gros, on a des données depuis 1800, enfin milieu du 19e. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a stabilisé le front de mer en construisant sur un trait de côte qui, de façon naturelle, est mobile. Voilà la question, c'est surtout ça. Donc il faut s'attendre à ce que la côte évolue encore, et pas dans le bon sens en ce qui concerne l'homme.
Quand dans la démarche grand site, et on y revient, on choisit de préserver et donc de ne plus bâtir, on fait le bon choix à ce moment-là, au bon moment?
Oui, mais là aussi, il faut revenir, c'est un projet local. C'est-à-dire que, en effet, si vous prenez les deux caps, ça reste des sites remarquables d'un point de vue paysager. Et l'intérêt aussi, ce n'est pas de mettre sous cloche, comme j'ai entendu dans le reportage, c'est bien aussi de maintenir le tourisme, mais de contrôler cette pression touristique. Le Grand Site de France, le principe, il est simple. C'est-à-dire, on a un site qui est recherché par les touristes, mais il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas dégradé par une trop forte fréquentation. Donc c'est vraiment une philosophie, si vous voulez, d'une gestion intégrée, pour le coup, d'un site qui reste ouvert au public.
Alors, il y a également des phénomènes qui sont là, qui sont liés à de l'influence du littoral sur l'intérieur des terres. Ça aussi, parfois, c'est méconnu, mais il y a des territoires qui ont besoin de grosses infrastructures, les wateringues, pour ramener de l'eau régulièrement en mer, parce que sinon on aurait des zones inondées dans l'arrière-pays.
Oui, alors ça, ce sont des collègues qui travaillent aussi sur les wateringues, hein, côté nord. La question, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si la mer progresse vers la terre, vous aurez moins de temps, moins d'amplitude pour vider finalement ces terres qui sont sous le niveau marin. Et ça pose une question justement d'adaptation par la mise en place de pompes, etc. etc. Et cette élévation, évidemment, pour le coup, vous voyez, ça serait des risques de submersion ou d'inondation d'origine continentale, pour le coup. Mais lié encore à cette relation avec l'élévation du niveau marin.
Vous êtes géographe, est-ce qu'il existe une identité autour de fait d'être habitant côtier? Est-ce que les gens sont différents ici? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose?
Moi, c'est mon gros problème, justement, je suis en train d'écrire là-dessus, c'est-à-dire que c'est toujours cette part de subjectivité, d'objectivité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire sans mon observation quotidienne en tant qu'habitant. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je considère qu'il est indispensable de vivre le territoire pour pouvoir l'analyser tout en essayant de garder un minimum d'objectivité que demande ma fonction.
Quand on regarde notre littoral, est-ce qu'on peut parler d'un littoral à deux vitesses? Celui de la Côte d'Opale qu'on vient d'évoquer, entre autres, hein, qui gère de façon durable, en prenant du temps, en laissant faire les choses, mais en les accompagnant. Et puis finalement, ces villes portuaires qui sont dans une urgence économique, qui sont là et qui ont parfois même du mal à trouver leur modèle.
Alors ça dépend comment vous voyez durable et en prenant son temps, puisque on peut considérer que l'approche dont on parlait tout à l'heure du Dunkerquois, elle est aussi durable, mais par un pilier plus économique qu'environnemental. N'oublions pas les trois piliers social, économique et environnemental. Donc je dirais que les territoires fonctionnent avec des objectifs et des fonctions différentes. Le Dunkerquois a une fonction industrielle depuis les années 60. Ici, effectivement, sur la Côte d'Opale, côté Boulonnais, Calais, on a cette côte aussi qui n'est pas la même, qui n'est pas une côte basse, mais qui est une côte à falaise. Et on a donc d'autres fonctions. C'est ce qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que la fonction des territoires, alors elle peut être agencée et aussi, comme on l'a dit pour Boulogne-sur-Mer, sur les ports, il faut adapter et évoluer en fonction aussi du contexte économique, social et environnemental.
On vous remercie, Vincent Herbert, d'être passé ici dans ce magazine pour répondre à nos questions. Vous avez découvert ce littoral. Si pour vous, il faut garder une image, c'est laquelle ? Ce sera la dernière question.
Diversité et complexité.
Merci Vincent Herbert d'avoir contribué à nous éclairer sur les enjeux liés à la gestion de la façade maritime Nord-Pas-de-Calais. Cette émission était animée par Anthony Vasseur de Transat FM et Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée.
Et par Elisabeth Hanck de Radio RCV qui en a également assuré la coordination.
En technique aujourd'hui, il y avait également Raymond de Transat FM et puis on salue Hugo, jeune stagiaire de Radio Scarpe Sensée. Le mois prochain, Parlons Franf vous donne rendez-vous sur le thème de la santé en Nord-Pas-de-Calais.